On appelle ça vie urbaine, mais dans le fond, c'est vrai pour n'importe quelle municipalité qui est dans l'obligation. En tout cas, j'imagine bien, là, ça doit pas être aléatoire ou optionnel ou à la discrétion de. Les municipalités doivent avoir un schéma d'aménagement. Hein, ils doivent avoir ça, un plan d'urbanisme. Schéma d'aménagement, ça, c'est le terme qu'on utilise quand on parle des MRC. Urbanisme ou plan d'urbanisme, c'est ce dont on parle le plus. Tu sais, c'est le terme commun là quand on en parle pour les villes ou pour les municipalités. Je dois être bien honnête avec vous pour avoir vu passer toutes sortes d'affaires dans le passé concernant les municipalités. Pour certains là, c'est un peu à la broche à foin. C'est-à-dire que il y a des municipalités, qu'elles soient petite, moyenne, les grandes, ça c'est moins vrai là, mais particulièrement pour les petites et les moyennes municipalités, souvent les règlements d'urbanisme sont un peu, je vais appeler ça à la broche à foin, pour reprendre des termes utilisés par certains citoyens qui se plaignent. Dans les grandes villes, habituellement c'est mieux structuré, mais la question qui se pose souvent, c'est si le schéma d'aménagement où la règle d'urbanisme n'est pas à jour, le plan d'urbanisme n'est pas à jour, est-ce que ça amène des inconvénients? Est-ce que ça amène beaucoup de cas par cas qu'on est obligé de gérer? Dans le passé, on a dénoncé ça à la MRC de Rivière-du-Loup, qui, elle, a été pendant 33 ans, 33, j'ai bien dit 33, à réviser son schéma d'aménagement. Et ça, ce sont des chiffres qui sont avancés, mais qui n'ont jamais été démentis par la MRC de Rivière-du-Loup, avancés par le réseau d'information sur les municipalités. Donc, de 1987 à 2020, on travaillait sur, mais on n'avait pas passé à travers le dossier. Ça a pris 33 ans. À la ville de Rivière-du-Loup, on dit que le schéma d'aménagement n'a pas été complètement revu et scellé, comme on dit, là, depuis 21 ans. Le dernier schéma d'aménagement qu'on a complété et scellé date des années 2000. On va parler de schéma d'aménagement et de plan d'urbanisme, surtout de plan d'urbanisme, avec Thomas Ruet-Gagné, qui est urbaniste à la ville de Rivière-du-Loup. On le rejoint à l'instant. Bonjour, M. Ruet-Gagné.
Bonjour, M. Saint-Pierre. Bonjour à toute l'équipe.
J'ai fait quelques recherches pour constater très rapidement que le plan d'urbanisme ou encore le schéma d'aménagement pour une MRC, c'est sur quoi on assit notre avenir, on assoit notre avenir. C'est ce sur quoi on peut avoir les idées claires, à savoir qu'est-ce qu'on peut faire, ne pas faire et comment le faire dans différents endroits. Et là, on va ramener ça à une ville, à la ville de Rivière-du-Loup, c'est ce qui nous permet véritablement d'avoir une ligne directrice claire. Est-ce que vous confirmez?
Oui, effectivement, je confirme. Peut-être les petites nuances que vous avez déjà faites dès le départ, là. Donc, quand on parle de schéma d'aménagement, on parle du document de planification à l'échelle de la MRC. Et puis ça, ce document-là teinte, ou du moins oriente, aligne déjà le plan d'urbanisme qui, lui, est le document proprement municipal adopté par la ville de Rivière-du-Loup dans le cas qui nous concerne.
Bien. Donc, si on s'en tient, on va oublier schéma d'aménagement, puis on va parler plan d'urbanisme. Donnez-nous des exemples où le plan d'urbanisme va guider les orientations. Puis quand je dis donnez-nous des exemples, là, ça peut être autant le développement résidentiel, le développement commercial, le développement industriel. Donnez-nous des exemples.
Bien, en fait, il y a un principe très général en urbanisme, là, qu'on va toujours chercher à optimiser les ressources, tant au niveau des infrastructures, du sol ou de l'espace en général. Donc, je vous dirais, pour rester dans le général, justement, on va souvent avoir des orientations qui vont dire, bien, nous, ce qu'on va chercher, c'est justement optimiser nos infrastructures en place, optimiser nos axes de transport, tenter de le plus possible d'arrimer nos usages résidentiels, nos quartiers résidentiels avec les pôles de services, avec les générateurs de déplacement, avec les pôles d'emploi. Donc, si, admettons, on a à peu près cette orientation-là, bien arrimer les usages résidentiels aux pôles d'emploi, Mais lorsqu'on se fait présenter, par exemple, un projet domiciliaire, on va pouvoir l'évaluer à la lumière d'une telle orientation.
Bien. Il me plaît de vous poser la prochaine question qui aurait peut-être pu être posée à la toute fin, mais on va la poser au début. Est-ce que un schéma d'aménagement, c'est-à-dire, je ne sais pas pourquoi j'ai toujours cette expression-là dans la tête, là, parce qu'on parle de plan d'urbanisme, est-ce qu'un plan d'urbanisme peut prévoir que dans une zone, mettons, domiciliaire, qui à un moment donné est faiblement peuplée, c'est-à-dire que on sait que ce secteur-là, c'est pour du développement domiciliaire, mais à l'heure actuelle, c'est faiblement peuplé, construit. Mettons, il n'y a pas de dépanneur. Puis on dit, ben dans ce secteur-là, il n'y a pas de dépanneur de prévu pour le moment, mais à partir du moment où, au lieu d'avoir 50 maisons, il y en aurait 200, on pourrait avoir un dépanneur. Est-ce que un plan d'urbanisme prévoit des choses comme celle-là, ou est-ce qu'on y va dans du cas par cas?
Ben, je vous dirais, il y aurait quand même plusieurs nuances là, à faire, mais on va y aller de façon générale. C'est qu'au niveau, puis je pense que je vais tout de suite faire une distinction entre le plan d'urbanisme, qui concerne vraiment les orientations politiques de la ville, et les règlements d'urbanisme qui, eux, sont vraiment des normes appliquées noir ou blanc par les inspecteurs municipaux.
Okay.
Donc, pour reprendre votre question, si on parle, par exemple, au niveau du plan d'urbanisme, on pourrait, par exemple, avoir une orientation qui dit, bien, dans tous les quartiers domiciliaires ou dans tous les quartiers, on veut s'assurer une certaine desserte en commerce de service ou en commerce de proximité, par exemple, incluant les commerces d'accommodation, par exemple. Donc là, à partir du moment qu'on aurait l'orientation de dire oui, ben à partir d'un tel pourcentage ou d'une telle superficie, on juge opportun d'offrir une desserte en commerce d'accommodation, ben là, on aurait l'orientation pour le faire. Par la suite, là, il faudrait descendre dans le règlement de zonage puis prévoir des dispositions particulières pour encadrer ces usages-là dans le fameux périmètre, on va dire, d'habitation, pour s'assurer qu'on ne génère pas de nuisances outre mesure.
OK. Donc, il pourrait très bien, parce que je prenais l'exemple de dépanneur, parce que c'est un exemple qui est facile à comprendre pour tout le monde, il pourrait très bien ne pas avoir de dépanneur aujourd'hui, mais en avoir un dans 5 ans, parce qu'il y a une partie de cette zone-là qui a été réservée pour un certain type de commercial, dont un service de dépanneur, mais en même temps, ça ne devrait pas se faire au détriment de ceux qui sont déjà là, et là, à ce moment-là, on entre dans le règlement. Là, c'est une autre affaire.
Exactement. Je vous dirais, dans les grandes lignes, c'est ça, exactement.
Bon. Venons-en à des questions, mettons, un peu plus terre-à-terre, parce qu'on l'a vécu. Puis là, je vous le dis tout de suite, là, on n'entrera pas dans le détail de Prelco, on n'entrera pas dans le détail de la rue Saint-Henri, parce que ce sont des dossiers commerciaux qui restent à être débattus ou encore qui ont été débattus. Mais lorsqu'on dit que le schéma d'aménagement, c'est-à-dire le plan d'urbanisme à la ville de Rivière-du-Loup, n'a pas été revu et scellé depuis 2000, donc ça fait 21 ans qu'on est en progression là-dessus, que pour toutes sortes de raisons, on n'a pas réussi à y arriver, que ce soit des départs, des congés de maladie et tout ce qui vient avec, on connaît le dossier. Est-ce que, à votre avis, M. Ruet-Gagné, ça amène beaucoup de cas par cas, et c'est ce qui fait que parfois, on va se frotter les oreilles entre les citoyens et le conseil municipal?
Mais bonne question. C'est-à-dire que une première nuance, oui, le plan d'urbanisme date de 2000, mais déjà, puis là, écoutez, j'ai peut-être pas les chiffres exactement, là, mais ce plan-là a subi des modifications pour s'adapter au cours du temps. Donc, à partir du moment qu'il est adopté en 2000, ça ne veut pas dire qu'en 2001, tout ce qui avait été est plus bon. Donc, normalement, on vise une portée ou une durée de vie de 10 à 15 ans au niveau des orientations pour un plan d'urbanisme. Oui. La loi dit qu'il faudrait, dans le meilleur des mondes, réviser ça aux 5 ans. Oui. Mais on peut se poser la question si c'est vraiment souhaitable d'être continuellement en exercice de planification. Donc, grosso modo, un plan d'urbanisme vise un horizon de 10 à 15 ans.
Oui.
Puis là, ben, vous l'avez dit tout à l'heure, notre révision du plan d'urbanisme peut dépendre de celle du schéma d'aménagement de la MRC. Donc, vous avez vu qu'il y a eu des décalages dans le temps à travers l'adoption de ces documents-là.
Oui, 33 ans, c'est quand même long. Là.
Donc, peut-être qu'il y a eu un peu de ça aussi, dans dire, ben là, si la MRC adopte son règlement en 2010, ben nous, on va enclencher la révision du plan en 2011. Mais là, je vous dirais, dans le cas qui nous concerne, après 20 ans de durée de vie, ben là, on est maintenant rendu à adopter des nouvelles orientations. Donc, est-ce que ça a été la cause, je suis mal placé pour répondre bien honnêtement. Par contre, on sait que 20 ans, je dirais, si on regarde vers l'avant, c'est le temps de se redonner des nouvelles orientations parce que les règles de l'art changent, les problématiques ou les approches se modifient. Le gouvernement provincial adopte des nouvelles normes, des nouvelles règlements. Des nouvelles préoccupations. Donc là, on est rendu à les intégrer sur le plan municipal.
Donc je comprends, M. Ruet-Gagné, qu'on peut répondre oui dans certains cas, non dans certains cas. Donc c'est il faut nuancer, puis en même temps, faut pas oublier que c'est au cas par cas, quand il y a des problèmes qui surviennent, peu importe que le schéma d'aménagement ait été révisé, complété, approuvé par le ministère des Affaires municipales l'année passée, ou qu'il le soit dans 5 ans parce qu'on est un peu en retard. Il faut quand même se mettre face à ça, là. C'est une réalité, là.
Exactement, c'est ça. Puis je vous dirais, vous l'avez dit, c'est qu'un document de planification, on est capable de régler beaucoup de cas à travers, mais on ne sera jamais capable de tout les régler, donc... Vous donner un exemple, puis là, les statistiques aussi sont plus ou moins précises, mais admettons qu'on règle ou on émet entre 1000 et 1200 permis par année à la ville, ça veut dire qu'il y a au moins 1000 à 1200 cas de figure que le plan et les règlements d'urbanisme ont permis de régler de façon heureuse.
Oui. Hey, dernière question que je veux vous poser là-dedans, parce qu'après, j'en ai deux à vous poser là, qui sont un peu plus dans le quotidien, là, justement, dans la délivrance de permis. Lorsqu'on refait un plan d'urbanisme, est-ce que, par exemple, si un terrain était zoné ou une portion de terrain était zonée pour tel ou tel type d'habitation, est-ce que pour en changer la vocation qui est initialement prévue au plan d'urbanisme, on est obligé de retourner devant la population? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mm-hmm. Dans le plan d'urbanisme, là, il y a un terrain qui est prévu pour avoir pas plus que du domiciliaire à résidence unique, mettons, est-ce qu'on appelle un bungalow. Est-ce que, parce que les temps ont changé, puis les besoins ont changé, on pourrait décider qu'on va construire, on aura le droit de construire un 4 logements à cet endroit-là, alors qu'avant, c'était pas permis? Mais pour faire approuver ça, est-ce qu'on a besoin de retourner devant la population?
Il y a plusieurs cas de figure, là, avec justement encore beaucoup de nuances, parce que la loi prévoit différents cas de figure. Mais effectivement, si on va prendre le cas le plus clair, c'est-à-dire que admettons qu'un plan d'urbanisme a dépassé son 5 ans d'âge, son 5e anniversaire, on peut procéder à une révision du plan d'urbanisme. Et puis, dans cette révision-là, on pourrait en profiter pour revoir l'ensemble des dispositions qui sont contenues dans le plan et les règlements d'urbanisme.
Oui.
Et puis, effectivement, là, les modalités, d'après ça, d'approbation des personnes à voter sont... Bon, il y a une nuance, c'est-à-dire que quand on fait une révision, on va retourner devant la population pour voir si ça fait l'affaire, en bon français, mais pour l'ensemble de l'œuvre du règlement et du plan refondu. Donc là, on est déjà dans les nuances. Puis peut-être un dernier cas de figure, un deuxième cas de figure, je sentais que vous vouliez reprendre la parole, mais dans certains cas, on peut faire des modifications du plan d'urbanisme et par procédure de concordance, nous ne serions pas obligés d'aller retourner devant la population
pour l'accepter. OK. Fait que on va prendre un exemple qui n'est pas la rue Saint-Henri et le projet qu'il y a là, mais on va faire exprès pour que l'exemple lui ressemble, c'est-à-dire que dans le plan d'urbanisme, on a un terrain où il y avait quelque chose avant, puis quelqu'un d'autre voudrait faire quelque chose maintenant. On est en train de revoir. Est-ce qu'on pourrait décider que ce terrain-là, spécifiquement dans le nouveau plan d'urbanisme, on dit, OK, là, t'as le droit de faire d'autres choses que ce qui était prévu initialement. Et, en sous-question, est-ce que dans un cas comme celui-là, il faudrait quand même aller demander aux voisins ce qu'ils en pensent?
Moi, je vous dirais, là, dans un premier temps, il faut faire très attention à tout ce qui est, on va dire, viser des parcelles de terrain précises ou des terrains. Normalement, à l'échelle du plan d'urbanisme, on est dans une échelle plus générale. Donc, si, par exemple, on veut viser un terrain particulier qui aurait... on va s'organiser pour avoir une cohérence d'ensemble dans une affectation ou dans une zone particulière. Donc, le fameux terme, là, c'est le spot zoning ou le zonage parcellaire. Ça, c'était à éviter selon les règles de l'art. Donc, ce qu'on va plutôt chercher à trouver comme solution, c'est une solution englobante pour tout un quartier ou une partie de quartier. Puis là, se donner une orientation, puis se donner une vision qui fait en sorte que l'intervention devient cohérente, deviennent adaptés et intégrés aux réalités du terrain et de la population.
Okay.
Donc, c'est comme ça qu'on va travailler.
Mais pour être plus précis, parce que je sais dans le fond que cette question-là, si la population la comprend bien, il faut qu'ils comprennent bien la réponse aussi, puis je reviens là-dessus. Est-ce qu'on pourrait, en quelque sorte, bulldozer des droits de citoyens parce qu'on refait le plan d'urbanisme, alors qu'auparavant, il aurait fallu passer par signature de registre, passer par référendum? C'est ça le sens de ma question. Est-ce que de refaire un plan d'urbanisme donne aux villes des droits qu'elles n'auraient pas si c'était pour une situation qui n'est pas clairement définie par le plan d'urbanisme?
En fait, je préfère votre deuxième formulation. Effectivement, la loi sur l'aménagement et l'urbanisme prévoit d'octroyer des pouvoirs aux municipalités de revoir l'ensemble de l'œuvre de règles qui s'appliquent à une portion de territoire. Et effectivement, dans votre question, il y a certains pouvoirs qui permettraient de revoir effectivement l'ensemble des...
OK. Avant, on n'avait pas le droit, mais maintenant, on a le droit, puis on n'a pas besoin de consulter la population pour ça. Si je referme la parenthèse, ça pourrait avoir l'air de ça.
Ben, écoutez, comme je vous disais, il y a plusieurs nuances.
Oui,
tableaux, là, mais il y a certaines tracts dans la loi qui permettent de moins aller voir la population, je vous dirais.
OK. Deux questions très précises. Quelqu'un m'appelle tout à l'heure et me dit, « Monsieur Saint-Pierre, si vous parlez d'urbanisme à la ville de Rivière-du-Loup, parlons des frais de toutes sortes, mais particulièrement pour la subdivision des lots. » Cette personne-là me donnait un exemple en disant, « Pour avoir... quelques mètres de terrain à subdiviser, ça coûte plusieurs milliers de dollars. » Et il y a des gens qui sont excédés par ça, qui disent « c'est de l'abus ». Je comprends bien que c'est pas vous qui fixez les prix, mais justement, comment on fixe les prix?
Bien, il y a une grosse question le mécanisme de fixation des prix de la valeur foncière, c'est une question d'évaluation foncière à proprement parler. Donc, la valeur du terrain, c'est pas le service d'urbanisme qui le détermine. C'est à partir de l'évaluation foncière qui reflète normalement, dans le meilleur des mondes, la valeur réelle du marché. Donc, au niveau du prix de votre terrain, c'est pas moi qui le décide, c'est en fonction des ventes dans votre secteur, la médiane des ventes dans un secteur donné et détermine le prix du sol.
OK. OK. Donc, ça veut dire que par rapport à la parcelle de terrain qu'on veut subdiviser, on va faire des multiplications qui sont basées sur la valeur de ce fonds de terrain-là.
Exactement. Nous, ce qui nous concerne à l'urbanisme, ça s'appelle, et puis écoutez, j'aimerais ça avoir le terme exact, là, on appelle ça une sécession pour fin de parc, espace vert. C'est que la loi sur l'aménagement et l'urbanisme prévoit un pouvoir aux municipalités que lorsqu'on fait une subdivision cadastrale ou une opération cadastrale pour essentiellement des usages résidentiels, on prévoit, on appelle ça une cession, une taxe jusqu'à un certain point, pour aménager des espaces verts dans ces milieux de vie.
Oui. Une autre question, quelqu'un qui me dit, concernant les marges latérales, ça, les gens qui ont construit un cabanon, qui ont installé une piscine, qui ont n'importe quoi, là, les marges latérales, les propriétaires sont un peu plus familiers avec ça. Tu sais, ça veut dire à combien de mètres qu'il faut que tu tiennes de ta ligne de terrain pour respecter les règles et l'intimité de ton voisin. Quelqu'un me dit... ça, c'est très bien défini. Mais quand arrive le temps de demander un permis pour construire, par exemple, un garage, un cabanon, mettons que ta maison fait 35 pieds de haut, elle a deux étages, elle a un gros toit puis toute la patente, t'as pas le droit de construire un garage qui fait plus que 12 pieds de haut. Cette personne-là nous dit, c'est un règlement qui a pas d'allure. On devrait être capable de construire en proportion. Comment c'est décidé, ces choses-là?
Bien, écoutez, vous avez déjà mis des façons possibles d'évaluer ces dispositions-là. Puis je vous dirais, bien honnêtement, là, on commence à être pas mal dans la précision. Là, donc, bien, effectivement, il y a plusieurs façons d'établir. Est-ce que c'est par ratio de plancher? Est-ce que c'est par ratio de hauteur? Est-ce qu'on fixe une hauteur fixe? Tout ça, c'est des façons de faire qui reviennent à peu près toutes au même but de bien contrôler, on va dire, les usages accessoires. Parce que je vous dirais, écoutez... Puis là, ils vont un peu dans l'absolu, là, mais quand on ouvre la porte à faire des bâtiments accessoires de grande ampleur, bien souvent de fois, il y a une activité qui va avec. Puis là, bien, des fois, on peut se ramasser avec. On a beaucoup de bricoleurs dans tous les territoires. Donc, des fois, on peut se ramasser, bien là, finalement, un petit atelier de soudure, un petit atelier de menuiserie. Puis là, on peut embarquer dans des nuisances potentielles pour le voisinage. Donc, je vous dirais, les bâtiments accessoires, normalement, il y a un cadre réglementaire assez strict parce qu'on veut que ça demeure accessoire, justement.
Ouais, ouais.
Mais là, après ça, dans le fin détail, écoutez, on est vraiment dans le détail.
Ouais, ouais, ouais. Mais en même temps que je vous pose la question de cet auditeur-là, je suis très conscient qu'il y a des garages qui ont plus que 12 pieds de haut à Rivière-du-Loup, là.
Mm-hmm. Ben,
sûrement.
Je laisse ça en suspens. Je pourrais pas vous répondre.
OK. Ben écoutez, M. Ruet-Gagné, c'est sûr que c'est un sujet qui est aride, qui est extrêmement technique. Oui. On a essayé de le rendre le plus simple possible. Dernière question que je vous pose, mais ça, c'est peut-être plus aux élus qu'il faudrait la poser, mais je vous la pose quand même. On dit qu'à Rivière-du-Loup, là, c'est compliqué. Mm-hmm. Vous, là, vous êtes de l'autre bord du rideau, là. Vous êtes pas un élu, vous êtes un fonctionnaire municipal. Mm-hmm. Quand vous entendez ça, puis moi, je suis pas placé pour dire si c'est vrai ou si c'est faux, j'ai pas de projets commerciaux à Rivière-du-Loup, mais quand vous entendez dire ça, vous vous dites, c'est un peu vrai, mais on peut pas faire autrement, ou encore, vous vous dites, ça a pas de maudit bon sens, on nous traite comme des n'importe quoi, alors que dans le fond, on fait rien que notre job.
Ben, il va y avoir deux volets à ma réponse. Je vais tenter d'être bien court. C'est que au fil du temps, tu sais, puis là, je vais parler d'un langage familier. Là, c'est que des fois, puis je vais généraliser en dehors de la ville de Rivière-du-Loup, c'est que les municipalités, des fois, ils se font jouer des petits tours. On a toutes sortes de passe-passe qui peuvent être faits, ou tu sais, il y a toutes sortes d'imaginations pour arriver à nos fins. Donc, au fil des temps qu'on accumule toutes ces choses que je vous décrivais, ben on est amené à demander des documents d'analyse supplémentaires pour s'assurer que. Puis je vous dirais que quand on frappe des petits problèmes, soit d'implantation, ben le temps qu'on met à régler les problèmes une fois qu'ils sont arrivés, ben des fois on se dit que ce serait peut-être plus simple de demander en amont certains documents pour éviter les problèmes qui, eux, vont demander beaucoup d'efforts, beaucoup de gestion, beaucoup de ressources à la ville pour les régler. Ça, c'est une première chose. Et dans un deuxième temps, mais je vous dirais justement, en ce moment, on est en train de faire la révision du plan d'urbanisme. On va réaliser, on va compléter la révision des règlements d'urbanisme par la suite. Alors là, ça va être le moment d'adresser toutes ces doléances-là, d'adresser ces réalités-là. Et puis nous, ben notre devoir là-dedans, ça va être à l'écoute pour arriver avec une solution la plus heureuse pour les citoyens, tout en pouvant conserver notre mission d'assurer une qualité du cadre bâti, etc. Donc là, je vous dirais, peut-être que c'est compliqué, mais dans l'exercice qu'on est en train de faire, ben on va souhaiter du moins en arriver à une solution plus heureuse.
Et c'était ma dernière question, M. Ruet-Gagné. Oui. Bon, il y a eu le départ de M. Gagnon, il y a eu des problèmes de gens là, qui ont été obligés de se retirer du travail, on le sait. Mais là, est-ce qu'on a commencé à peser un peu sur l'accélérateur pour en venir à bout de ce plan d'urbanisme-là, puis de finir par le finir, comme on dit?
Oui, exactement. Ça serait le bon mot. Le pied est sur l'accélérateur, puis là, je me garde des petites réserves parce que les annonces publiques ne sont pas faites, puis on évolue quand même dans un cadre d'incertitude au niveau, parce que qui dit révision des plans d'urbanisme dit consultation du public, qui dit consultation du public dit public et rassemblement, donc là, faut se rabattre sur des solutions intermédiaires pour faire cette consultation-là, mais oui, effectivement, en dehors des annonces publiques qui s'en viendra, on a le pied sur l'accélérateur pour réussir à boucler ça, si vous me permettez l'expression.
Okay. Merci. Plaisir.
Ben, c'est plaisir pour moi.
On parlait avec Thomas Ruet-Gagné, urbaniste à la ville de Rivière-du-Loup. Je le répète, on a essayé de pas faire ça trop compliqué, là, mais veut pas, c'est pas simple non plus. Ce qu'on retient de cette entrevue-là, quand un plan d'urbanisme n'est pas mis à jour dans des délais, appelons ça, raisonnables ou moyens. Oui, ça peut entraîner un peu plus de cas par cas. En même temps, même si le plan d'urbanisme est fraîchement établi, ça veut pas dire que la semaine d'après, le mois d'après ou l'année d'après, qu'il y aura pas encore du cas par cas. On est obligé de sous-peser tout ça dans sa vraie valeur. Et puis, troisièmement, dans la refonte d'un plan d'urbanisme, il y a des zones où il y a présentement des interdictions qui peuvent devenir des zones permises et vice-versa, sans qu'on ait nécessairement besoin d'aller consulter la population. Alors, c'est intéressant. Et comme je le disais plus tôt ce matin, un plan d'urbanisme, même si vous avez l'impression que ça ne vous concerne pas ou que vous ne comprenez rien là-dedans, un plan d'urbanisme, ça intervient dans votre vie à tous les jours.